Il y a une douzaine d'années, sinon un peu plus, lorsqu'il était question d'agriculture urbaine, un nom venait tout de suite à l'esprit, Éric Duchemin. Aujourd'hui, c'est encore à lui que l'on réfère pour vérifier l'ampleur du phénomène de l'agriculture urbaine. Lui et son équipe du Creteau brossent un tableau de plus en plus chiffré de l'agriculture urbaine.
Ça fait plus de 12 ans qu'on suit le développement de l'agriculture urbaine au Québec, au Canada et à l'international. Et tout l'ensemble des impacts que peut avoir l'agriculture urbaine, nous, notre mandat, c'est de documenter ça et de faire en sorte que cet impact-là ne soit pas que ce qu'on dit, mais que ce soit mesurable. Et qu'on réussisse à mesurer, à montrer aux bailleurs de fonds, aux municipalités, à vous, qu'est-ce que ça apporte pour les personnes qui le pratiquent. Et depuis un certain temps, je n'ai plus obligé non plus de justifier l'agriculture urbaine, parce que je pense qu'après 12 ans, 15 ans, l'agriculture urbaine n'est plus une mode, mais c'est vraiment implanté. Donc, je pense qu'il faut comprendre pourquoi l'agriculture urbaine s'est développée comme ça. L'agriculture urbaine, ce n'est pas que des projets, c'est vraiment une volonté de créer des paysages comestibles qui répondent à des enjeux urbains du 21e siècle. Les changements climatiques, les îlots de chaleur, la perte de la biodiversité, ça s'inclut dans ça et c'est pour ça que c'est porteur, et même des trucs sociaux, l'isolement social. L'immigration et les personnes qui ont besoin de manger. Donc, les projets leur permettent de pouvoir planter leurs propres légumes qui souvent proviennent de leur pays. Parce qu'au Québec, on fait pousser beaucoup de plantes tropicales et de plantes du Sud et ça pousse très bien. Et tout ça, c'est dans des approches aussi innovantes et d'économie circulaire. De plus en plus, l'agriculture urbaine s'inclut vraiment dans le métabolisme urbain, dans ces idées-là d'économie circulaire, de réutilisation de ce qu'on appelait des déchets et maintenant qu'on appelle des ressources. Je pense aussi que l'agriculture urbaine doit être vue comme un bien commun. Enfin, je pense, mais au laboratoire, on pense que l'agriculture urbaine doit être vue comme un bien commun. Ça veut dire que c'est comme une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est le savoir, mais l'agriculture urbaine, des projets de sociétés, de municipalités, de quartiers, d'arrondissements, mais ça peut aussi être un lieu de ressourcement, de fourniture de nourriture, d'apprentissage pour les citoyens, comme peut l'être pour une bibliothèque. Et là, nous, depuis un certain temps, on en porte. On a monté un projet à Montréal sur ça, mais il y a d'autres projets qui se créent ailleurs, qui sont nettement plus importants, que j'ai été visiter la semaine passée. Donc, la cité maraîchère de Romainville, en région de Paris, et ils ont décidé de faire une tour maraîchère où à chaque étage, on va produire. Puis à la base, c'était vraiment dans l'idée de ça va être une start-up, on va faire de l'argent privé et autres. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y a des enjeux. Des enjeux parce qu'il y a du monde qui vit autour. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de lumière, on ne peut pas mettre de système de ventilation bruyant. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont transformé cette cité maraîchère-là, qui est quand même 5 millions d'euros d'investissement, pour en faire un lieu de bien commun, comme une bibliothèque. Ça veut dire qu'au premier étage, il va y avoir une cantine, il va y avoir un lieu de formation et aux étages, il va y avoir une production qui va être mise en marché à faible coût pour les citoyens alentour. Ils vont produire pour 200 familles. L'idée, c'est vraiment de dire, de sensibiliser pour chaque légume qui va être mis en faible coût, c'est de sensibiliser à la bonne alimentation. Et la personne qui va s'en occuper va être un fonctionnaire, va être un professionnel de la ville de Romainville. Donc, on a vraiment transformé ce qui devait être à la base quelque chose de privé en quelque chose de public. Et au bout du compte, ils font le calcul, ça leur coûte nettement moins cher que construire une bibliothèque. La bibliothèque est juste à côté. Et là, ils sont de faire des maillages entre la bibliothèque et ce lieu-là. Parce que la bibliothèque, il y a des livres sur le jardinage et autres. Bien, les citoyens vont pouvoir expérimenter après ça dans le projet. Bien entendu, l'agriculture urbaine n'est pas nouveau. C'est parti, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, peut-être le renouveau de l'agriculture urbaine, c'est avec les jardins communautaires. Au début des années 70, c'était les réapparitions des jardins communautaires. C'est des projets qui sont matures. On en retrouve un peu partout dans les municipalités. Un grand nombre, selon les besoins. À Montréal, c'est 96 jardins communautaires, 8500 parcelles. À Québec, il y a d'autres jardins communautaires. Brossard, il y en a, Longueuil, Laval. Donc, vraiment, on se rend compte que ça, c'est mature. Et des municipalités qui nous contactent lorsqu'on veut faire l'accompagnement, on se rend compte qu'ils veulent tester d'autres choses. Parce que ce modèle-là a des problèmes, et ce modèle-là est mature aussi. On a eu, dans les années 97, les jardins collectifs. Donc, c'est vraiment un nouveau mode, mais un peu un mélange entre ce qui se faisait en Californie et à Cuba. On a fait un mélange, c'est très québécois, jardin collectif, c'est une création québécoise comme structure qui répond aussi à un projet. Ça s'est développé énormément, c'est porté par des organismes communautaires, c'est vraiment sur l'institut alimentaire, sur les habitudes alimentaires. Mais encore, c'est un type d'initiative à maturité. On commence à en avoir un peu partout. Repartir des nouveaux jardins collectifs, c'est difficile parce qu'il y en a déjà dans les municipalités en général. Donc, peut-être on est encore une fois à voir à autre chose comme modèle, de nouveaux types de modèles à développer. Il y a un truc qu'on avait oublié, les jardins individuels. On a un projet de recherche depuis 3 ans sur vraiment comprendre Les jardins individuels, les potagers chez les gens, ça représente quoi? C'est combien de personnes? Dans le magazine Québec Vert, je me souviens bien, il y avait eu un sondage, puis grosso modo, 50 % des Québécois et Québécoises disaient qu'il y avait un potager chez eux. À Montréal, dans la grande région métropolitaine, c'est 42 %. Elle disait, oui, mais petit potager, de grands potagers, ça représente quoi? Donc, on a fait une cartographie. Un des quartiers Saint-Léonard à Montréal, c'est 11 hectares de potagers. Ça, c'est le record. Mais en général, dans un arrondissement montréalais, ça peut être de 4 hectares. On le fait à Brossard, on arrive à peu près à la même chose, 4 hectares. L'arrondissement Chemédé à Laval aussi, Terrebonne, c'est la même chose. On a toujours de 3 à 4 hectares de potagers. C'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est ce qu'on voit.
Il y a donc ce que l'on voit, mais il y a plus. Même les photographies de précision par satellite ne permettent pas de calculer tout ce qui se cultive, par exemple, sur les balcons. Il y a aussi ce que l'on retrouve dans les cours d'école et les rues. Également, de plus en plus, il y a l'agriculture plus commerçante, celle des fermes urbaines. De nouveau, Éric Duchemin.
Il y a 5 ans, ça a commencé à croître, et dans les 2 dernières années, ça a pris le pas sur le mouvement de l'agriculture urbaine, c'est les fameuses fermes urbaines. On en a un peu partout, et c'est grosso modo entre 12 et 20 fermes urbaines qui se créent par année. Quand je dis ferme urbaine, tout le monde pense ferme loufa. Mais c'est pas que les fermes Alpha, où on pense aérofarm, les fermes américaines en intérieur avec des LED, puis on produit que de la laitue. Mais non, c'est plus varié que ça et c'est beaucoup plus différent. Et le Québec se démarque encore une fois. Il y a une forte diversité. Donc, pour vous donner une idée de la croissance des fermes urbaines, ça, on réalise ça dans le cadre du mandat qu'on a du Carrefour de recherche d'expertise de transfert en agriculture urbaine du Québec, un mandat que le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, nous a donné pour documenter les fermes urbaines, pour les accompagner, pour aider le développement de cette nouvelle filière agricole. On a été chercher l'ensemble des fermes qu'on considère comme des fermes urbaines et on a regardé dans le temps comment ils ont évolué. Et là, lorsqu'on l'a fait, c'était en 2018, on était rendu à 50 fermes pour l'ensemble du Québec. 35 de ces fermes-là étaient dans la région de Montréal, surtout Longueuil, Montréal et Laval. Aujourd'hui, puisqu'on continue à faire le suivi, on s'est rendu à 75. Et il y a toujours à peu près 35 à Montréal. Donc, les autres qui ont été développés, c'est Trois-Rivières, Québec, donc dans d'autres municipalités, et ça continue. Chaque semaine, grosso modo, on a une nouvelle ferme qu'on doit inscrire. Donc, on a vraiment un développement actuellement des entreprises agricoles. Et bien entendu, il y a aussi des fermes qui ont fermé de 2019. Il y a 2 fermes qui ont fermé pour des raisons, épuisement, des gens qui ont décidé de faire d'autres choses de leur vie. L'agriculture urbaine ou l'agriculture de manière rurale, ça reste un travail exigeant. L'agriculture urbaine, c'est pas différent du reste. C'est beaucoup d'heures de travail avec des profits relativement, si profit il y a, faibles.
Il y a aussi de plus en plus les fermes périurbaines, dont on intègre les productions aux besoins de la communauté et de ses organismes de soutien. J'ai discuté quelques instants avec Éric Duchemin. Éric Duchemin, bonjour.
Bonjour.
Éric Duchemin, dites-nous tout d'abord ce qu'est le CRÉTO.
Le CRÉTO, c'est un organisme de recherche qui axe vraiment sur les fermes urbaines. Donc, on est vraiment là pour le développement des fermes urbaines au Québec. Et l'accompagnement aussi, il faut favoriser ce développement-là. Donc, on regarde les modèles économiques, les modèles agronomiques de manière large.
L'agriculture urbaine, vous l'avez dit d'entrée de jeu, ce n'est plus une mode, mais il y a encore des gens qui considèrent que c'est une mode.
Ah oui, c'est possible, mais effectivement, voici 12 ans, on me disait toujours c'est une mode, ça va disparaître. Moi, je disais toujours, non, vous allez voir, ça va rester maintenant. Parce que l'agriculture urbaine, c'est pas nouveau. Hein? La ville a été créée à l'entour de l'agriculture urbaine. C'est ça qu'on a... La population humaine s'est sédentarisée à l'entour de l'agriculture, on a créé les villes. De manière récente, on a revu l'agriculture urbaine. Il y a eu des vagues qui arrivent et repartent. Donc, l'agriculture urbaine est venue dans la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître parce qu'il y a vraiment un besoin. En Afrique, c'est hyper présent. Chez nous, on disait, ah oui, mais ça va être une vague, ça va partir. Mais on se rend compte que l'agriculture urbaine répond à tellement d'enjeux que tout le monde peut s'en servir et que ça aussi, on est vraiment dans une idée de transformer la ville, de transition écologique. Et l'agriculture urbaine est un moteur de ce mouvement-là, qui est un mouvement qui va perdurer encore des dizaines et des dizaines d'années.
Oui, on peut parler de réseau, de synergie, on intègre à ça des cuisines collectives, mais il y a une notion aussi intéressante, c'est que, et vous l'avez abordé, c'est que l'agriculture dite « commerciale », entre guillemets, on en retrouve un peu en ville maintenant avec des serres sur les toits, par exemple, mais la collaboration, l'échange avec les producteurs agricoles, pour qui c'est une occupation à temps plein, ça, c'est quelque chose de faisable et de souhaitable.
Encore, c'est pas fait beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup plus de volonté du côté urbain de faire ce lien-là pour favoriser une production locale. Hein. On parle vraiment de la mise en marché de proximité. Et les urbains sont vraiment dans ça. Au niveau plus rural, actuellement, les agriculteurs voient ça d'un mauvais œil, l'agriculture urbaine, où ils comprennent pas, ou ils disent que c'est pas important. Mais je pense qu'il y a vraiment une synergie à mettre, surtout dans la mise en marché, de la distribution et de la valorisation. Et on parle de termes valorisants au Québec dans l'agriculture, mais je pense qu'on peut trouver une façon de valoriser l'agriculture urbaine québécoise avec l'agriculture générale québécoise valorisée par l'agriculture urbaine, parce que les agriculteurs urbains sont de plus en plus des professionnels. Ce n'est plus des gens qui font des potagers chez eux, ça existe toujours, c'est très majoritairement, c'est très présent, mais il y a de plus en plus un mouvement de personnes qui en vivent et qui ils ont des numéros de producteurs aussi, donc ils sont reconnus comme des producteurs par le ministère de l'Agriculture.
Et là, on est dans l'économie circulaire, mais étendue, là.
Oui, on est vraiment... Donc, l'agriculture urbaine adore un rôle, adore une synergie avec la ville. Et souvent, on peut démarquer aussi l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine, l'agriculture urbaine, c'est que l'agriculture urbaine va vraiment réutiliser les ressources de la ville, la matière organique de la ville. Elle va apporter aussi des services écosystémiques, entre autres, sur la gestion de l'eau. Et donc, c'est vraiment ce lien-là qui est le cœur même de l'agriculture urbaine.
Il y a des municipalités, il y en a de plus en plus, qui adoptent des politiques facilitant, encourageant et stimulant l'agriculture urbaine. C'est pas encore assez étendu de votre point de vue, ça?
Bien, je pense que c'est un mouvement de fond qui est présent. Ces plans-là sont vraiment axés sur ce qu'on appelle l'agriculture urbaine sociale. Donc, c'est vraiment axé pour aider le citoyen et la citoyenne à pouvoir avoir son potager, à vivre une expérience, à faire des rencontres. Et nous, au Creteau et au Laboratoire sur l'agriculture urbaine, on pose vraiment pour dire, oui, mais l'agriculture urbaine commerciale, donc des fermes urbaines, fait aussi partie de tout ce développement-là, parce que c'est des professionnels qui ont une expertise et qui peuvent aider l'ensemble du système. Et aussi, ça fait ce fameux passage-là avec le périurbain. Donc, il y a vraiment une question alimentaire qui se développe grâce à cette professionnalisation. Et là, on voit, là, je pense que la majorité des grandes villes québécoises, dans les prochaines années, vont avoir leur programme ou leur stratégie ou leur politique d'agriculture urbaine parce que les citoyens le demandent.
Les citoyens le demandent et en terminant, les citoyens sont et doivent de plus en plus être conscients de ce qu'est l'alimentation, de ce que ça exige et aussi des possibilités que tous les gens ont de produire eux-mêmes.
Oui, je pense que l'agriculture urbaine apporte beaucoup là-dessus. Les gens ont l'impression que les agriculteurs, c'est du monde qui ne travaille pas. Parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est facile, je plante des carottes, ça pousse. » Et quand on le fait dans son potager, on se rend compte que c'est pas si facile parce que les gens y en perdent. Et d'un coup, ça valorise aussi ce travail-là de l'agriculteur à l'extérieur, dans les fermes, qu'ils soient urbains ou périurbains ou dans le monde rural. Le citoyen se rend compte que la production alimentaire, ben c'est pas des usines, c'est pas des robots, c'est des gens. Et ça prend du temps, ça prend un savoir-faire. Et le fait que les potagers se créent, que les jardins collectifs se créent, que les jardins communautaires et toutes les autres formes, ben ça sensibilise les citoyens. Et nous, on a fait des recherches, on se rend compte que les gens qui ont un potager mangent plus de légumes biologiques locales. Donc, il y a une sensibilisation qui se fait et on est prêt à payer plus cher parce qu'on se rend compte que tout l'ouvrage qu'il y a derrière et on se rend compte aussi de la qualité qu'on peut avoir par rapport à un mets industriel.
Éric Duchemin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Un peu plus tôt, j'ai parlé brièvement de l'agriculture périurbaine. Dans mon prochain blog, je vous en donnerai un bel exemple, celui de cultiver l'espoir dans l'ouest de l'île de Montréal. Au revoir.